Oui, alors les détails, ça pourrait être très long, mais on va être synthétique. Moi, j'ai été nommé directeur de ce centre dramatique en tant qu'artiste. C'est la particularité de ces théâtres publics que d'être dirigé par des artistes. Il y en a 38 en France, dont Tours. Et donc, moi, j'ai un parcours de comédien et de metteur en scène. Et maintenant, de directeur. Ça fait trois casquettes pour une petite tête. C'est parfois un peu lourd, mais c'est plutôt joyeux.
François Chaudier, peut-être oui. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez, pareil, faire une petite description de...
Voilà, un metteur en scène, quand il dirige une institution, a souvent besoin d'un binôme. Je vais dire que je suis la personne qui accompagne Jacques Vincé dans la mise en œuvre de son projet artistique ici à Tours. Voilà, donc je suis en fait un peu l'intendant de la maison. Hein, le responsable administratif, financier, juridique, voilà, un poste très généraliste.
C'est lui qui sait compter, quoi.
Voilà. Puisque le théâtre, on en parlera certainement, c'est aussi une entreprise qu'il faut faire fonctionner avec ses différentes compétences. Voilà, donc j'ai plutôt ce profil-là de management, comme on dirait. Ouais.
Alors nous sommes ici au Théâtre Olympia, c'est un bâtiment avec plein de baies vitrées, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de ce lieu et nous présenter finalement ce lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui pour l'émission?
Alors nous on est arrivé en 2014, donc c'est récent. Ce lieu a une histoire un tout petit peu plus longue, ce bâtiment-là en tout cas, puisqu'il a été construit il y a 15 ans je crois maintenant, hein, c'est ça à peu près, 13 ans. Par mon prédécesseur Gilles Bouillon. Et c'est un théâtre, donc effectivement, en verre, en acier, très contemporain, très ouvert sur la ville et qui est la ville historique. Là, on est rue de Lucé, à deux pas de la rue Nationale, donc en plein cœur de la ville.
Effectivement.
Et dans une architecture absolument contemporaine.
De Nicolas Michelin.
Et c'est un lieu qui a été, c'est important, qui a été, c'est un théâtre qui a été construit sur la place d'un ancien cinéma d'art et essai, qui s'appelait l'Olympia. Et donc voilà, il y a des fantômes cinématographiques qui rôdent aussi dans ce théâtre. Et
d'où le nom aussi du coup du théâtre.
Voilà.
Théâtre Olympia tout simplement.
Voilà.
Alors, c'est un CDNT, le Théâtre Olympia, en tout cas ici nous sommes...
CDNT.
CDNT, c'est ça. Hein.
CDN, Centre Dramatique National.
CDN.
Tours, c'est, voilà,
oui,
c'est
vrai que c'est optionnel le T, effectivement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représentent ces trois lettres, CDN, alors Centre Dramatique National, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie?
C'est vrai que c'est un acronyme qui fait un peu peur, hein. C'est dramatique, on se dit, oula, on va pas y aller, ça doit pas être drôle. alors que ça n'est pas le cas. Centre Dramatique, en fait, pareil, pour aller vite, c'est après la Deuxième Guerre, on s'est dit qu'il fallait faire en sorte, enfin on s'est dit, les politiques et quelques politiques éclairées se sont dit qu'il fallait faire en sorte qu'on essaye de pas s'acheminer vers une Troisième Guerre mondiale, donc faire en sorte que les esprits s'ouvrent, et entre autres à la culture et à l'art. Ça a été entre autres porté par un ministre qui est resté célèbre, qui est André Malraux, et qui a décentralisé la culture. Avant, il y avait des théâtres qu'à Paris, et pour l'essentiel des théâtres privés, et il a considéré que l'État avait pour mission de diffuser la culture et l'art dans les territoires, et donc, d'une manière volontariste, il a construit des lieux dans lesquels il a installé des artistes, comme j'expliquais tout à l'heure. À l'origine, c'était beaucoup des troupes, d'ailleurs, qui jouaient ici et là, et qui faisaient en sorte qu'un peu partout sur le territoire, on pouvait avoir accès au théâtre. Maintenant, donc ça fait un petit temps que c'est Centre Dramatique, c'est les 70 ans cette année de la décentralisation théâtrale, et donc c'est à la fois un très beau passé, et c'est un passé comme toujours qu'il faut s'approprier, qu'il faut réinventer. Il faut surtout penser à qu'est-ce que vont devenir ces lieux. Beaucoup de choses ont changé évidemment depuis 70 ans, et donc le théâtre lui-même a changé, la manière de faire du théâtre a changé. Et on a la responsabilité d'inventer ce que vont être les centres dramatiques de demain. Et c'est ce qu'on fait avec François. Il y a 15 jours, on était à Caen dans une réunion de différents directeurs de centres dramatiques, chacun dans sa région, expliquant ce qu'ils faisaient et comment on pouvait ensemble réfléchir à ce que ça pourrait être, ces maisons, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans.
Alors,
je vous écoute.
En complément de ce que dit Jacques, ces maisons ont la particularité d'être dirigées par un artiste qui met en œuvre un projet sur un territoire. Donc ça, c'est très singulier. comme Jacques l'a dit, il y en a 38 en France, donc on est inscrit dans un réseau national avec des échanges, voilà. Et puis la troisième idée, la troisième particularité, c'est que ce sont avant tout des maisons de création et de production, c'est-à-dire que c'est des maisons où se fabrique un spectacle depuis, je dirais, les textes jusqu'à le résultat sur un plateau. Donc c'est des lieux de fabrique. Voilà, quand un spectacle ici se crée, il est répété pendant 2 mois, on construit les décors, on fabrique les costumes, on associe toutes les métiers nécessaires à la réalisation d'un spectacle. Donc ça, c'est la forte singularité.
Alors vous étiez à la base, je reprends mes abréviations et mes petites lettres, CDR finalement, Centre Dramatique Régional, c'est ça ? Quand s'est opérée finalement la transition entre CDR et CDN ?
En fait, je parlais de... Ça fait 70 ans que ça existe. Historiquement, il y a certains centres dramatiques qui ont été plus soutenus par les régions, par les collectivités locales que par l'État. Ça a été le cas à Tours. C'est la raison pour laquelle ça s'appelait Centre Dramatique Régional et non pas National, puisqu'en fait, c'est une question de pourcentage de part de subventionnement des différents partenaires qui, en l'occurrence, là, sont l'État, la région... la métropole, qui était l'agglomération jusqu'à l'année dernière, et le département. Donc voilà, les centres dramatiques régionaux, il y en avait de moins en moins, et c'était important de s'inscrire dans le réseau national, non pas que le terme de régional me déplaise du tout, mais c'est simplement une question de cadre dans lequel notre travail s'inscrit et peut fonctionner. On sait que les réseaux sont importants, on sait que le fait d'être identifié dans un cadre plus large était important.
Est-ce que ça signifie, pardon, que vous avez des liens avec d'autres centres, d'autres centres tout simplement ou,
oui, alors on a, ça se passe on a des liens structurels, parce que, comme je disais, on fonctionne sur le même principe. On est tous nommés par la ministre, donc c'est vraiment le ministère de la Culture qui est notre tutelle principale. Après, on a des affinités artistiques, c'est-à-dire que avant d'être ici, j'étais en compagnie, il y avait certains de ceux qui sont directeurs maintenant qui étaient aussi en compagnie, dont je connaissais le travail, certains autres pas, il y en a d'autres dont j'ai découvert le travail, et il y en a avec qui j'ai plus particulièrement envie de travailler, que j'ai envie d'accueillir, que j'ai envie de faire découvrir au public tourangeau. Voilà, c'est des affinités à la fois institutionnelles et peut-être d'une manière plus importante, artistique.
Et puis de façon générale, sur le plan professionnel, l'ensemble des centres dramatiques sont regroupés dans le cadre d'une association, qui est l'association des CDN, la CDN, voilà, qui a son site, voilà, qui réunit assez souvent ses directeurs tout au long de l'année. Qui est un cadre dans lequel on échange beaucoup sur ce que nous faisons dans nos maisons et comment on veut les faire évoluer. Et puis les administrateurs, donc les fameux numéro 2, on se réunit tous les 1 mois et demi, 2 mois à Paris, voilà, où on échange sur les pratiques un peu plus administratives. Mais du coup, c'est un vrai réseau.
Vous avez évoqué le fait que vous dépendiez finalement aussi du ministère de la Culture. Est-ce que ça signifie aussi que les financements viennent de l'État ? Comment on vous aide ? Comment se passe aussi le volet financier pour le CDN de Tours ?
Alors, les chiffres, François va pouvoir répondre plus précisément, mais c'est vrai que normalement, sans dramatique nationale, l'État doit être majoritaire dans le financement des établissements. Ça n'est pas le cas à Tours.
Ah, exception, voilà,
c'est pour ça. Donc, on est passé CDN au 1er juillet, là, 1er juillet cette année, en 2017. Ça a pris un peu de temps, mais du coup, l'État s'est engagé dans une augmentation de sa subvention annuelle. Donc, l'État, c'est le ministère de la Culture en l'occurrence, donc sur 3 ans. Ça a été par palier, donc en 15, en 16, puis en 17. Non, en 16, en 17. Puis en 18, pardon. Voilà, donc, mais néanmoins, le tour de table, les 4 partenaires publics, l'État n'arrive pas encore à 50% des financements publics. Le premier financeur est Tours Métropole Val-de-Loire, très largement, qui est à l'origine notamment de ce bâtiment, qui appartient à la métropole.
Qui était la d'agglomération,
voilà, ouais. C'est pourquoi pendant des années, sur la façade, il y avait écrit. équipement communautaire, parce que ça appartenait à Tour Plus. Voilà, donc, et c'est notre premier financeur. Tour Métropole donne à ce 1,2 million par an pour le fonctionnement et les activités artistiques du centre. Après vient, vient l'État, vient la région Centre-Val-de-Loire et enfin le département. Voilà. Le tout sur un budget de 3,7 millions, grosso modo 3,5 millions, 3,7 millions, et vous avez 80% de ce budget-là qui repose sur des subventions publiques.
Très, très bonne précision. Vous en êtes sorti sans chiffres. Vous aviez peur tout à l'heure de, voilà, d'être venu sans chiffres et finalement vous les avez tous en tête. En revanche, est-ce qu'on peut revenir maintenant sur vos missions finalement concrètes? Alors, en feuilletant votre édito que vous avez écrit, Jacques Vincé, sur le petit fascicule du CDN, vous dites vouloir rester ouvert aux mutations positives tout en restant vigilant aux fondamentaux. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Elle m'a un peu. C'est un peu philosophique peut-être. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu?
Non, mais je crois que quand j'écrivais ça, je faisais allusion très précisément aux 70 ans de la décentralisation. C'est-à-dire que il y a des fondamentaux qui ont été posés et que j'ai rappelé tout à l'heure, qui sont fondamentaux dans le sens où pour moi ils restent aussi importants. Ça fait vraiment partie de nos missions, ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de se rapprocher des gens, d'inscrire aussi la création dans un terreau, parce que c'est vraiment un terreau qui nourrit aussi un imaginaire, qui nourrit un travail, qui nourrit une manière de travailler. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et comme je disais aussi, néanmoins, tout change, et tout change très vite. Et il ne faut surtout pas rester fossilisé dans un fonctionnement. Il faut sans cesse se remettre en cause, il faut sans cesse trouver de nouvelles manières de travailler. Alors c'est évidemment particulièrement vrai pour tout ce qui est relations publiques, mais aussi dans notre travail d'artiste, voir comment ces maisons historiques restent poreuses à tout ce qui nous environne et des réalités qui doivent surtout franchir la façade en verre et en acier.
Oui, en restant attractive aussi, il y a cette notion d'attractivité qu'il faut cultiver.
Mais c'est bien que vous parliez de ça, parce que c'est vrai que l'attractivité, c'est parfois, on est parfois victime d'une image négative qui est, oui, c'est du théâtre pour les intellos, c'est pas pour moi, c'est dramatique, sans dramatique, j'y reviens parce que c'est une appellation, là pour le coup, qu'il faudrait peut-être songer à renouveler, parce que ça avait un sens il y a 70 ans, ça a plus tout à fait le même sens maintenant. Mais évidemment que quand on fait ce métier-là, c'est un art vivant, c'est un art du présent, c'est-à-dire que c'est pas un peintre, un romancier, il peut toujours se dire que si sa toile n'est pas vue maintenant ou si son livre n'est pas lu maintenant, il y a des chances que des gens le lisent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Un spectacle qui n'est pas vu maintenant, il sera jamais vu. Donc on a cette instantanéité qui est importante. En même temps, le fait qu'on soit soutenu par de l'argent public, c'est pour justement pouvoir échapper au fait qu'on doit remplir la salle à tout prix, quitte à aller dans le sens du public. Notre mission, notre devoir et notre chance, c'est de pouvoir travailler à proposer des spectacles sans être tributaire à 100% de la demande. Bien évidemment que c'est important, bien évidemment que c'est même intériorisé dans nos fonctionnements. Mais ce qui est important, c'est ce que je dis souvent, c'est de présenter dans ces endroits-là ce que les gens ne savent pas encore qu'ils vont aimer. C'est de travailler
sur... L'effet de surprise un peu.
Oui, c'est-à-dire de plutôt que de leur offrir ce qu'ils attendent, de leur offrir ce qu'ils n'avaient pas imaginé, et donc d'ouvrir des nouvelles fenêtres dans leur imaginaire, dans leur manière de percevoir le monde, justement. Et c'est une exigence à laquelle on doit absolument se tenir.
Parmi les fondamentaux qu'on a à défendre, c'est la notion de service public. C'est-à-dire que Jacques le disait en tout début, que nous sommes un théâtre public, à la différence d'autres théâtres. C'est-à-dire qu'on a une mission de défendre la création, mais pour que la création soit vue par le plus grand nombre. Et notamment, ça se voit à travers les politiques de relations avec les publics, de médiation, de conquête de nouveaux publics, hein, tout le travail qu'on fait hors les murs de ce théâtre-là, dans les foyers sociaux, dans les collèges, partout sur le territoire de la région. Ça, c'est un des aspects. Ça se voit aussi à travers la politique tarifaire. Hein, ici, le tarif va de 5 euros à 25 euros le tarif plein. Le billet moyen, hein, si on ramène, c'est 11 euros le billet. Donc, avec cela, on devrait pouvoir rendre accessible le théâtre, je dirais, à toutes les...
nationales.
Oui, mais en rebond de ce que disait François juste avant la pause musicale, sur le fait que on va au-devant des publics, on fait un travail vraiment de médiation, donc c'est-à-dire essayer d'aller au-devant des gens pour leur permettre d'accéder à ce lieu et à ce qui s'y passe. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est une équipe de 23 personnes permanentes, dont 5 ou 6 travaillent aux relations avec les publics. Donc, je dis ça parce que on s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que c'est pas un travail qu'on voit, c'est pas un travail qui est sur le plateau, mais c'est un travail extrêmement important et qui est vraiment dans l'ADN de ces maisons-là. C'est-à-dire que, encore une fois, dans l'esprit de service public, on permet d'accéder à cet endroit qui n'est pas dramatique. Et non, mais je dis ça pour aussi dédramatiser tout ça. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui essayent, il y a des gens qui réussissent parfois et qui se trompent parfois. Et qui est un endroit plutôt vivant et plutôt joyeux.
On parle du mot dramatique depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez le définir? Et vous avez dit qu'il avait évolué, mais c'est peut-être aussi finalement important aussi pour la programmation, parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'une programmation dramatique. Mais alors, quel est ce mot? Quelle est la définition de ce mot exact?
Moi, très souvent, surtout quand je suis acteur, on me dit mais vous êtes acteur plutôt, vous travaillez plutôt dans le comique ou plutôt dans le dramatique? C'est un peu des classifications passé, parce que maintenant on sait que la vie se charge de mélanger ces deux notions et c'est tant mieux. Sur une programmation, honnêtement, on fait pas du tout attention à ces notions là. Ce qui est important, c'est des spectacles forts, et en général les spectacles forts, encore une fois, c'est ceux qui arrivent à attraper la vie dans ce qu'elle a de plus diverse. Et là, je viens de monter Shakespeare, qui est pas le dernier des auteurs qu'on appelait d'ailleurs à cette époque là des dramaturges. C'est là d'où vient le mot aussi. Enfin, c'est le drame. Mais encore une fois, c'est un mot qui est moins utilisé. Mais Shakespeare a ce génie de mélanger le plus trivial avec le plus métaphysique, en passant par tous les stades de lyrisme. Et c'est ça qui fait que ça traverse les siècles. C'est que il embrasse ce qu'on est largement et sans se priver d'une partie ou d'une autre.
Vous avez parlé de spectacles forts. Alors, est-ce que cette année, au Centre Dramatique National, il y aura justement des spectacles forts? Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qui va se passer tout au long de l'année?
Alors, bah oui, des spectacles forts. On essaye que tous les spectacles qu'on présente soient forts et divers. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir le même théâtre en venant voir Stadium, dont on a déjà présenté 2 représentations au mois de juillet et qu'on représentera d'ailleurs à l'Espace Malraux à Jouer les Tours les 1er et 2 février. Stadium, c'est un spectacle sur les supporters du club de Lens de football. Ils sont entre 50 et 60, parce que c'est pas toujours le même nombre d'une date à l'autre, supporters sur le plateau, sur un gradin, face au gradin des spectateurs de théâtre. Et donc c'est évidemment une manière de parler de ces gens-là, avec ces gens-là, d'échanger leur expérience de spectateur de football avec nos expériences de spectateur de théâtre. Et puisqu'on va, vous allez en parler tout à l'heure avec la metteur en scène et des acteurs, les aveugles qu'on accueille là la semaine prochaine, qui est là une forme beaucoup plus intime, intimiste, avec des marionnettes qui représentent des vieillards, qui interprète un texte de Maeterlinck, Les Aveugles. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même échelle. On était dans l'extra large, là on est dans du très fin, très sensible, très... Et après, on décline, il y a une quinzaine de spectacles, dont des spectacles de nos artistes associés. Je parlais de Stadium et des aveugles. C'est aussi un axe important de notre programmation. Comme disait François tout à l'heure, on est un théâtre de création. Et donc, je suis nommé comme metteur en scène. Je crée mes spectacles ici. Mais j'ai décidé en arrivant d'associer deux artistes tous les deux ans. Et là, en l'occurrence, c'est Mohamed El Khatib et Bérangère Ventusso, que vous allez rencontrer tout à l'heure, qui ont l'occasion de présenter leur spectacle au fil des deux saisons dans lesquelles on les accueille. Sinon, un autre axe fort de la programmation, je ne vais pas détailler tous les spectacles, mais je vais peut-être pointer ce qui est le plus particulier à ce théâtre-là. Je parlais des artistes associés, il y a une autre caractéristique, et vous allez en parler avec eux tout à l'heure, c'est qu'on a la chance de pouvoir accueillir 5 acteurs, 2 techniciens et maintenant une chargée de production qui sont permanents dans ce théâtre pendant 2 ans au sortir des écoles nationales qu'ils ont fait les uns et les autres. Et pour aller dans ce sens-là, on a des jeunes créateurs dans la maison et on s'est dit qu'on allait leur confier les rênes d'un festival de jeunes créations. Donc c'est eux qui vont à la recherche de ce qui se fait partout en France et même parfois un peu plus loin dans les pays d'Europe, et pour venir les présenter pendant un week-end. C'est ce fameux festival Ouette qui a lieu du 23 au 25 mars. C'est la 3e édition cette année et c'est un moment d'effervescence, de fête, de découverte, puisque voilà, il y a 10 spectacles en un week-end. Il y en a qui arrivent à voir les 10, sinon on peut picorer et choisir ce qu'on a envie de voir. Mais en tout cas, c'est une effervescence artistique, c'est une effervescence humaine aussi, parce que c'est vrai que le fait que tous ces créateurs soient rassemblés dans un même lieu sur un temps court, c'est très fort.
Peut-être à titre de complément, simplement, Jacques n'en a pas parlé par pudeur, mais parmi les spectacles qui ont marqué la saison, c'est celui avec lequel on a ouvert la saison, Le Marchand de Venise, hein, la création de Jacques, dans une traduction qu'a assuré Vanessa Ekanfomala, notre dramaturge. Et ce spectacle n'est plus à l'affiche là actuellement à Tours, mais il tourne actuellement. Ça me permet de venir sur une dimension, c'est-à-dire que l'activité du Centre Dramatique n'est pas seulement ici à Tours, cette rue de Lucé, mais c'est aussi partout en France. Et la semaine dernière, Jacques jouait Le Marchand de Venise à Dijon, la semaine prochaine à Saint-Étienne, puis à Grenoble, et puis encore à Bourges. Voilà, donc on a aussi cette activité-là hors les murs de tourner, puisqu'on a vocation à vendre nos spectacles un peu partout en France et à l'étranger. Deuxième chose, à complément, on a aussi des fidélités avec nos artistes associés en fin de saison. Vous pourrez revoir un spectacle de Caroline Guéla Nguyen, Saigon, qui a été le buzz ou le spectacle qui a énormément fonctionné au Festival d'Avignon l'an dernier. Et puis, dire une dernière chose sur la programmation, c'est qu'on essaye, en programmant, ce travail-là, on le fait à plusieurs, de montrer toute une diversité de ce qu'est le théâtre aujourd'hui. Le théâtre, c'est pas uniquement des textes, c'est pas uniquement dramatique. C'est aussi, ça s'ouvre aux arts circassiens, ça s'ouvre à la marionnette, à la danse.
C'est vrai qu'il y a une programmation très hétéroclite finalement. C'est vous deux qui l'avez conçu cette programmation ou ça a été fait de façon collégiale?
On y travaille à quatre.
À quatre.
On est quatre à aller voir des spectacles, à s'en parler, à échanger et à composer et effectivement. Un bouquet de 15 spectacles qui soient variés et qui soient aussi représentatifs, comme disait François, d'un état du théâtre en France en ce moment.
Vous avez évoqué tout à l'heure brièvement les artistes associés. Alors on y reviendra évidemment tout à l'heure en deuxième partie d'émission pour parler de la pièce Les Aveugles avec Bérangère Ventusso. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire ce que ça signifie, artistes associés, et en quoi ils collaborent avec vous finalement? Comment ça se passe?
Alors, c'est d'abord des metteurs en scène dont le travail me touche. Je commence par ce point qui est sensible, dont l'univers artistique me parle. Ensuite, c'est des metteurs en scène qui sont à un moment de leur parcours où le fait d'être accompagné par une maison de théâtre comme on est très précieux parce que ça leur fait un camp de base à partir duquel après ils peuvent rayonner. François a parlé de Caroline Guélène-Guyenne. Quand on l'a accueillie comme artiste associée il y a 4 ans, elle était au tout début de son parcours. Et puis, depuis là, c'est vrai que tout d'un coup, ce spectacle Saigon, qui a été créé au Festival d'Avignon, va tourner dans l'Europe entière et pendant 2 ans. Bon, donc on est très heureux de ça, de pouvoir accompagner les artistes, comme moi je l'ai été. Et c'est comme ça que j'ai connu François au Théâtre du Nord à Lille, où j'ai été associé pendant 3 ans, et où, concrètement, pour répondre à votre question, le théâtre à la fois m'a donné des moyens de production pour créer un spectacle dans le théâtre, et a également accueilli un spectacle que j'avais créé ailleurs et qui était dans la programmation. Et puis ensuite, ça peut être des actions de formation, de rencontre du public, d'implication dans la vie de cette maison de théâtre là, ici à Tours, rue de Lucé.
L'association, c'est aussi pour un artiste pendant 3 ans, donc sur une durée 2-3 ans, c'est avoir une maison vers lequel l'artiste peut se tourner. Une maison, c'est des compétences dans tous les domaines, c'est aussi un budget, voilà. Donc c'est aussi un échange comme ça qu'on a entre artiste et la direction de la maison sur l'accompagnement qu'on peut apporter. Un artiste vient avec un projet, ouais, l'artiste associé pendant 3 ans a des projets. Sur certains, on peut apporter des moyens de production, des moyens financiers, d'autres une mise à disposition de notre outil, d'une salle de répétition par exemple, et à d'autres moments ça va être autre chose. Mais voilà, c'est quand même c'est la maison, quoi.
Alors on parlait de Bérangère Ventusso, qui a mis en scène Les Aveugles, que vous passez à partir de demain jusqu'au 2 décembre, donc cette pièce de théâtre. Elle a été créée en 2008, cette pièce. Pourquoi finalement programmer une vieille pièce de théâtre, si on peut dire vieille, parce que bon, 9 ans, c'est pas si vieux que ça, peut-être, pour le théâtre.
Il y a des pièces qui, comme les morceaux de musique, deviennent des tubes. J'exagère un peu volontairement, mais c'est vrai qu'il y a des spectacles qu'on a envie de revoir. C'est particulièrement vrai d'ailleurs pour les spectacles de danse. Pour le théâtre, c'est plus rare pour des raisons diverses, mais quand un spectacle est fort, c'est formidable de pouvoir le reprendre des années après, parce que le spectacle évidemment reste le même, mais en même temps les acteurs ont quelques années de plus, donc quelques années, enfin, ça se modifie en général, c'est comme le bon vin, quand la base est bonne, voilà, c'est ça.
Au début de l'association avec Bérangère, c'était pas du tout écrit qu'on reprenne Les Aveugles. Et puis quand on lui en a parlé, Jacques et moi, on avait vu le spectacle, voilà, on a dit mais pourquoi pas le reprendre, et elle a saisi l'idée. Voilà, c'est comme ça, c'est des choses. On avait associé Bérangère, on savait qu'on allait faire la création qu'elle a faite l'an dernier, l'Institut Benjamin Tah. Voilà, on avait pris son spectacle jeune public, mais c'était pas écrit qu'on fasse Les Aveugles. Et voilà, on s'est trouvé sur ce désir réciproque.
Les Aveugles, une pièce, on va y revenir plus largement en deuxième partie d'émission. Brièvement, avant une deuxième courte pause musicale, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la part de risque finalement dans votre programmation? Parce qu'il y a des pièces que vous reprenez, des pièces plutôt vieilles comme les Aveugles, un tube, vous l'avez mentionné. Quelle est cette part de risque dans votre programmation sur la saison 2017-2018?
Le risque principal, c'est de présenter des spectacles qui n'ont jamais été vus ailleurs et que donc on n'a pas pu voir. Il y en a quelques-uns dans la programmation, les Bacchantes qui seront présentées au mois de janvier, Pavillon Noir, Le Marchand de Venise, qui est le spectacle que j'ai créé en début de saison. Voilà.
C'est...
Parle dans ton micro parce que
sur les 15, il y en a 8 qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire c'est des projets qu'on a choisis parce qu'on connaît les artistes, parce que voilà, ils nous ont présenté ces projets-là. Voilà, donc la part de risque, elle est là. C'est le fait de programmer des choses dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on a lu un dossier et qu'on a échangé avec les artistes. Mais voilà, on ne sait pas ce que va être le résultat sur scène.
Voilà, si ça va plaire finalement aux gens.
Ah, ça, c'est encore autre chose.
Ouais. Oui.
Mais la part de risque, elle est aussi dans le choix. Par exemple, La Pomme dans le Noir, qui est un spectacle qu'on a accueilli fin octobre, qui est d'un auteur qui est une adaptation d'un roman d'un auteur brésilien qui s'appelle Clarice Lispector, mis en scène par Marie-Christine Soma, qui est une artiste que je connais très bien parce qu'elle est mon éclairagiste et qu'elle fait de la mise en scène une fois de temps en temps. Mais c'est un spectacle très exigeant, même pour les spectateurs. C'est pas un accès très facile, et en même temps c'est un spectacle d'une force, et les gens qui sont venus, certains des spectateurs étaient totalement bouleversés par la profondeur et l'acuité du travail qui avait été fait autour de ce texte-là. Donc voilà, c'est, si tout le monde n'est pas enthousiaste au départ, justement, le risque est de prendre de choisir des spectacles qui peuvent, justement parce que c'est pas tout à fait dans le mainstream, venir attiser des feux particuliers.
Le théâtre, c'est un artisanat de prototypes, en fait. Donc, on ne sait jamais si le prototype qu'un artiste va mettre sur un plateau va plaire au public qui va venir.
Et oui, c'est un risque, hein, à chaque fois.
Voilà. Donc, le risque, il est là aussi. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave.
Bonjour, Quentin. Je ne m'entends pas du tout. Je n'ai pas de casque. Ah. Du coup, je ne sais pas du tout.
Peut-être avec le casque, effectivement, ça ira mieux.
Bonjour, oui. Alors, je suis Quentin Bardou, je suis comédien du Jeune Théâtre en Région Centre, Val-de-Loire, communément appelé JTRC, et donc je suis comédien permanent au Théâtre Olympia, Centre Dramatique National de Tours.
Et nous avons accueilli Alicia aussi. Bonjour Alicia.
Bonjour.
Pareil, peut-être avec le casque, je sais pas, la transition technique a été un peu courte.
Merci.
Là, voilà.
Oui, alors je m'appelle Alicia Derli et moi je suis comédienne au JTRC, arrivée depuis janvier. Voilà.
Depuis janvier. Ouais. Il y a toujours avec nous évidemment l'équipe technique, Mélissa, Arthur, Julie et Jacques Vincé qui est resté. Pourquoi vous êtes resté ? Parce que vous voulez nous lire un petit passage de théâtre. Alors, on a ramené quelques livres et quelques pièces de théâtre. Qu'est-ce que vous avez choisi comme passage, Jacques Vincé, pour lire à nos auditeurs ?
Alors, parmi les livres qui étaient là sur la table, qui viennent d'Emmaüs ou de la bibliothèque de Mélissa, je ne sais pas, il se trouve qu'il y avait Les Bonnes, qui est un texte de Jean Genet, que j'ai monté il y a quelques années. Et je ne vais pas vous lire un morceau de la pièce, je vais vous lire un morceau de la préface qu'il a écrit à sa pièce qui s'appelle « Comment jouer les bonnes ». C'est-à-dire que non seulement il a écrit la pièce, mais en plus il a écrit comment il fallait la jouer. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que comme c'est un grand poète, son « Comment jouer les bonnes » est à la fois très poétique et très intéressant sur ce qu'il dit du théâtre en général. Donc je vais vous en lire un tout petit extrait, moi qui m'inspire beaucoup. C'est donc Jean Genet qui parle et il dit « Je vais au théâtre afin de me voir sur la scène tel que je ne saurais ou n'oserais me voir ou me rêver et tel pourtant que je me sais être. Les comédiens ont donc pour fonction d'endosser des gestes et des accoutrements qui leur permettront de me montrer à moi-même et de me montrer nu dans la solitude et son allégresse. » C'est un peu dense, mais c'est magnifique. Et donc pour ceux qui ont envie de le relire, c'est la préface des Bonnes de Jean Genet. Et les comédiens qui me permettront de me montrer à moi-même et de me montrer nu dans la solitude et son allégresse, je trouve que ça dit tout, le théâtre, la solitude, l'allégresse, la nudité. Voilà.
Belle conclusion en tout cas, merci d'être venu nous présenter un peu votre rôle au sein du Centre Dramatique National, Jacques Vincé. On a perdu aussi François Chaudet entre temps, je le remercie, je ne sais pas où il est passé, peut-être derrière.
Non, il est remonté
tout simplement travailler. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Je me tourne maintenant vers Quentin qui va faire pareil en fait, qui va lire un petit extrait d'un passage d'une pièce. Donc Quentin, on le rappelle, un jeune comédien qui fait partie du Jeune Théâtre en région Centre-Val de Loire. Bon, on reviendra tout ça un peu plus en détail après cette lecture de ce passage. Qu'est-ce que tu as choisi, Quentin ?
Alors moi, j'ai choisi une pièce d'actualité qui est donc l'École des femmes de Molière. Et ce sera sans doute un petit bout du cours sur le mariage que donne Arnolphe à Agnès. Donc Agnès, qui est une jeune fille que Arnolphe a recueillie au berceau et qu'il a élevée dans l'objectif de se marier, enfin voilà, de faire un mariage avec cette
très jeune femme, c'est avec cette jeune fille. Voilà, et donc il veut la forcer au mariage, et donc je vais lire un petit morceau. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage là. Regardez-moi là, durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirez ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise. Et jouir de ma couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à 20 parties fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il veut vous faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez, sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise, à mériter l'état où je vous aurais mise, à toujours vous connaître, à faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que j'ai fait. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage, et vous n'y montez pas à ce que je prétends, pour être libertine et prendre du bon temps, et c'est là que ça devient intéressant. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre, qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître.
Est-ce que c'est l'intonation qu'on aurait pu avoir sur scène en jouant cette pièce ?
Oh non, ça serait beaucoup mieux, j'espère. Là, je sais pas, j'ai choisi ça au hasard sur la table.
Bon, en tout cas, très bonne improvisation. J'allais dire, je vous laisse avec Julie, mais est-ce que, parce qu'en fait, Julie, pour expliquer un peu ça à nos auditeurs, a préparé un peu l'interview sur les JTRC. Peut-être que vous pouvez commencer par là. JTRC, qu'est-ce que ça signifie exactement, Jeune Théâtre en région Centre-Val-de-Loire?
Alors, Julie.
Oui, je vous écoute.
Les JTRC, alors, on est 5 comédiens, 2 techniciens et 1 administratrice. Donc, on est des jeunes sortant des écoles nationales dans nos différents postes. Et en fait, on a pour mission pendant 2 ans d'être vraiment au sein du Théâtre Olympia, que ce soit en tant que comédien, mais aussi en tant que programmateur en ce qui nous concerne, parce qu'on programme un festival, on va faire des actions culturelles dans les lycées, dans les collèges, on fait des stages, enfin, on est vraiment au cœur du théâtre et un peu le noyau de ce théâtre aussi, et voilà, on a plusieurs missions.
Donc vous êtes 7 jeunes dans ce jeune théâtre. Donc j'imagine que les sélections doivent être assez difficiles. Donc comment est-ce qu'on rentre au jeune théâtre en région centre?
C'est différent pour... déjà, ça a été dit, ils ont envie de travailler et avec qui ils feront passer ensuite des auditions. Ou alors, comme dans mon cas et celui d'Anthony, un autre comédien, on a travaillé avec Jacques Vincet à l'école. Du coup, après ça, il nous a proposé d'être au sein du JTRC. Et pour les techniciens et administrateurs, là, c'est des entretiens, des rencontres, voir si ça s'accorde entre eux et le théâtre.
Et quelle place ça a dans une carrière de comédien, puisque vous êtes des jeunes comédiens, est-ce que c'est un tremplin, est-ce une chance? Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de cette jeune petit groupe?
À moi. Une chance, oui, bien sûr. Enfin, c'est super pour le coup d'être directement après notre formation mis dans le bain de ce que peut représenter un centre dramatique national, c'est-à-dire, enfin, déjà un lieu, une maison de théâtre où on côtoie aussi plein de gens qui font tourner la boutique, mais que les spectateurs ne voient pas. Par exemple, donc je pense, les relations publiques, les spectateurs les voient, mais je pense à l'administration, je pense aux techniciens, je pense à tous ces gens-là et à tous ces métiers-là. Donc pour ça c'est vraiment super. Et puis la particularité dont parlait Alicia tout à l'heure sur les différentes missions qu'on a, c'est aussi que le fait d'être permanent dans un théâtre nous ouvre à énormément de choses qu'on n'avait pas forcément faites pendant nos formations. Donc en effet, donner des ateliers par exemple auprès du jeune public et du moins jeune public d'ailleurs par ailleurs, il peut y avoir ça, il peut y avoir en effet la programmation du Festival Wet, voilà, qui est une chose où tout d'un coup on est en tant qu'artiste, on nous demande d'avoir un regard et une pensée sur ce qu'est en l'occurrence pour le Festival Wet l'émergence théâtrale en France, voilà, et donc pour la programmation de ce festival. Donc oui, c'est l'immense chance du JTRC, c'est vraiment le fait qu'il y ait énormément de missions différentes en fait, et bien sûr la grande joie de jouer beaucoup aussi. Et ça c'est vraiment super. Je sais pas combien de projets on a fait les deux saisons dernières, mais c'est vrai qu'on a énormément d'expérience en très peu de temps sur de la création en plus là de tout ce dont on a parlé avant.
Et parmi toutes vos missions, est-ce qu'il y en a une qui vous a paru plus difficile que d'autres, peut-être que vous avez jamais fait comme vous venez de le dire? Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? ou une préférée, une
moi j'en ai une qui m'a marquée, mais pas dans sa difficulté mais dans son engagement que ça nous a demandé. C'est le fait de devoir aller jouer dans des collèges. Cette année on a joué le Don Juan de Molière, mis en scène par Gwenaëlle Morin, dans les collèges, et c'est quelque chose que par exemple je n'avais jamais fait, devoir m'adapter, prendre mon sac à dos avec mes costumes et tout, et débarquer dans un collège et faire des raccords et jouer dans l'heure après devant je sais pas, 80 collégiens qui sont un peu qui sont un peu collégiens des fois. Et donc ça c'était très marquant et très formateur pour le coup. Dès qu'on arrive, devoir jouer devant un public qu'on n'a pas l'habitude, dans des salles qui ne sont pas des salles de théâtre. Donc ça a été très marquant. Et ce qui est plus compliqué, c'est d'être programmateur. Voilà, ça c'est pas évident.
Peut-être qu'on peut parler d'une chance supplémentaire dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, et qui est aussi du coup pas forcément une difficulté, mais qui est quelque chose de nouveau, et là je vais parler en mon nom propre. Dans le cadre de notre permanence, on nous offre la possibilité à nous comédiens du JTRC de faire des cartes blanches. C'est-à-dire qu'il y a un temps dans l'année qui nous est réservé pour qu'on puisse créer une forme, quelque chose. Et donc cette année, je porte une carte blanche avec Jeanne Bonenfant, qui est une autre actrice du JTRC, qui est vraiment un projet de troupe, parce que je pense que c'est comme ça, c'est la meilleure définition qu'on ait trouvée pour le moment pour le JTRC, c'est qu'on est une troupe, voilà, une troupe d'acteurs.
Vous êtes sept, c'est vrai, on a oublié de présenter aussi les cinq autres, si vous pouvez en dire un petit mot.
Alors très très vite, les cinq autres, donc Alicia Derly, Quentin Bardou, Théophile Dubus, Anthony, Jeanne et Jeanne Bonenfant, qui sont donc les cinq comédiennes et comédiens de la troupe. Ensuite, il y a Étienne Dauphin et Emmanuel Wolf, qui sont les deux techniciens du JTRC. Et on est 8 en fait, parce que Kelly Angevine, administratrice JTRC, a rejoint le théâtre en septembre, donc il y a quelques mois à peine, voilà, dans cette équipe là et donc on nous laisse la possibilité de créer des cartes blanches. Et là, donc pour moi c'est un peu une première, voilà, donc c'est cette carte blanche s'est transformée en fait en commande d'écriture à l'un des acteurs, Théophile Dubus, qui est aussi auteur, et donc on lui a commandé une pièce pour la troupe du JTRC que je mets en scène, et on va faire un peu de pub parce qu'on est aussi là pour ça après tout. On va faire un peu de pub, et donc cette carte blanche donnera lieu à une présentation, une sorte de répétition ouverte, je pense que ça sera sous cette forme à ce moment-là, lors d'un partage du mardi, le 19 décembre prochain, à 18h, au Théâtre Olympia, en salle de répétition.
Et pour terminer, rapidement, après le JTRC, qu'est-ce qui se passe après, après avoir fait une saison au JTRC?
Donc c'est encore à moi de parler puisque je m'en vais dans 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en ce qui concerne Tours et le Théâtre Olympia, donc il y a le Festival Ouette, dont on est en train de terminer la programmation, enfin on est dans les dernières, dans la dernière ligne droite là, de la programmation de ce festival, où il y aura donc 10 propositions théâtrales qui auront lieu au Théâtre Olympia, à la salle Télème, le théâtre universitaire de Tours, au Petit Faucheux et à la Pléiade à la Riche, ainsi que sans doute une forme hors les murs, donc pas dans un théâtre, donc programmation qu'on découvrira en janvier. Donc il y a ça qui continue après le JTRC. En ce qui me concerne, j'ai créé une compagnie avant de devenir permanent ici. Donc je vais travailler dans la Drôme, dans un dispositif qui s'appelle Création en cours et qui en fait donne des bourses à des artistes pour qu'ils aillent travailler dans les écoles primaires avec une classe. Donc voilà, on passe 6 mois avec une classe ponctuellement pour faire une création avec eux, et puis je joue dans une création à Marseille.
Alors moi, je vais essayer de la faire courte. Moi, j'ai démarré le théâtre déjà en tant que comédienne à Nancy, parce que je viens de Lorraine. Et puis je suis allée à Paris, comme souvent on fait quand on commence le théâtre en province. Et là-bas, je me suis inscrite à l'université d'études théâtrales de Paris 3. Et c'est là-bas que j'ai découvert une chose qui a été déterminante dans mon parcours. C'est que j'ai découvert la marionnette au cours d'un atelier de pratique artistique qui était dirigé par un marionnettiste très célèbre qui s'appelle François Lazaro. Je suis arrivée là tout à fait par hasard et ça a opéré chez moi comme une sorte de révélation, le fait qu'il était possible de monter des textes de théâtre, notamment du répertoire contemporain, avec des acteurs et avec des marionnettes. Et ça a été déterminant pour moi parce que j'ai à ce moment-là décidé de mettre en scène des spectacles, ce que je n'avais jamais fait, avec le désir un peu manifeste de monter des projets avec des marionnettes, mais qui soient pas des spectacles pour les enfants, qui soient des spectacles pour les adultes et sur des textes très contemporains. Donc je suis devenue metteur en scène à ce moment-là, au moment de cette découverte.
Cette découverte qui a lieu finalement en 1998, c'est ça?
Bravo,
bon, c'est ça. j'ai pas de mérite, j'ai repris le petit fascicule dans lequel il y a marqué un peu votre biographie. Alors c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, Les Aveugles, c'est une pièce à base de marionnettes, hein, oui. Évidemment. Donc c'est essentiel pour comprendre tout ce dont on va parler. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement le synopsis un peu de cette pièce pour essayer de mettre l'eau à la bouche à nos auditeurs?
Alors, je vais essayer. Donc, c'est une pièce, déjà, ça fait partie du théâtre symboliste Maeterlinck. C'est un théâtre assez particulier. C'est une pièce qui date de 1890 et qui... alors, il n'y a pas vraiment de pitch parce que l'histoire, elle se résume assez vite. 12 aveugles, 12 vieillards aveugles, 6 hommes et 6 femmes qui partent dans la forêt avec le prêtre de leur hospice. Donc ils partent dans la forêt, ils sont assis sur des pierres, et puis au moment où la pièce démarre, on les prend et ils n'ont plus de nouvelles du prêtre. Le prêtre leur a dit bonne nuit, il est parti et ils sont perdus. Et ils vont, au fur et à mesure de la pièce, se rendre compte qu'en fait le prêtre il est là, au milieu d'eux, sauf qu'il est mort. Et donc la pièce va consister en une grande, longue découverte de ce fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le spectateur, lui, est majoritairement voyant, même s'il nous est arrivé d'accueillir des spectateurs non-voyants. Et donc le spectateur, lui, sait depuis le début que le prêtre, il est là et que le prêtre est mort. Et donc il va assister en direct au cheminement de ces 12 personnages pour découvrir que le prêtre n'est plus là. Donc voilà, ça c'est l'histoire. c'est un théâtre, enfin, vous l'aurez compris, il n'y a pas de rebondissement. D'ailleurs, j'ai apporté un petit texte que je pourrais vous lire tout à l'heure si vous voulez, qui est assez court, où il parle justement de la théâtralité qu'il recherche, un texte de Maeterlinck. On est plutôt sur un théâtre de l'expérience, c'est-à-dire que l'objectif de la mise en scène, c'est vraiment de plonger les spectateurs dans la forêt avec les vieillards, et on n'est pas sur une intrigue avec des personnages, des amants dans le placard, etc. On est vraiment sur un théâtre assez différent, qui est plus un théâtre de l'âme, comme dirait Maeterlinck.
Est-ce que le fait d'avoir des marionnettes et que le spectacle soit à base de marionnettes, est-ce que ça permet justement de plonger plus facilement le spectateur dans le milieu dans lequel vous décrivez?
De marionnettes et d'acteurs.
De marionnettes et d'acteurs, effectivement.
En fait, Maeterlinck a écrit énormément de textes à côté des textes littéraires. Et il a notamment écrit un texte dans lequel il parle d'un souhait qu'il a de remplacer les acteurs par des androïdes. C'est comme ça qu'il les appelle dans son texte, c'est-à-dire des êtres qui auraient l'apparence de la vie, mais sans avoir la vie. Au moment où il écrit la pièce, c'est la grande mode des musées de cire, comme le musée Grévin ou le musée de Madame Tussaud en Angleterre. Et il était complètement fasciné par les figures de cire qu'il voyait dans ces musées. Et donc, il a eu ce désir d'évacuer l'acteur de la scène, parce qu'il disait que l'acteur, quand il arrive sur la scène, il est déjà porteur de son propre poème, et que ce propre poème qu'il apporte sur scène brouille le poème du poète. Donc, il avait ce fantasme de remplacer les acteurs par des androïdes. Ce qui est un petit peu vain, parce que les androïdes ne parlent pas tout seuls. Donc, l'idée de départ de ce projet, au-delà du fait que le texte me touche beaucoup, c'était d'aller au bout de ce fantasme et de monter cette pièce, effectivement, avec des androïdes. Donc, on a créé, c'est un mot qui convient assez bien, parce qu'on a créé 13 marionnettes qui sont tout à fait ressemblantes aux êtres humains.
Oui, voilà, qui ont une apparence humaine. Alors du coup, je me tourne vers Guillaume Gillier. Vous êtes comédien pour cette pièce Les Aveugles. Qu'est-ce qui vous a mené à finalement faire un spectacle autour des marionnettes et autour d'androïdes marionnettes, un peu un mix des deux?
Ce qui m'a mené à faire un spectacle avec des marionnettes, c'est la rencontre avec Bérengère Ventusso. Parce que moi, je viens pas du tout du milieu de la marionnette. Et je crois que je ne suis pas sûr que j'avais déjà vu un spectacle de marionnettes à part Guignol quand j'étais enfant, avant de travailler avec Bérengère. Donc c'est vraiment depuis la rencontre avec Bérengère qui date maintenant d'une plus de 10 ans, que je travaille avec les marionnettes. Et je vous ai repris tout à l'heure en disant il y a des marionnettes, mais il y a aussi des acteurs. C'était une demi-blague, parce qu'en fait, la spécificité du travail de Bérengère, c'est que c'est pas du théâtre de marionnettes. Les acteurs ne sont pas là, cachés ou en noir. Au contraire, on est très à vue dans l'animation des marionnettes. Et notre présence est aussi signifiante d'un point de vue dramaturgique que les marionnettes elles-mêmes. Les marionnettes racontent l'histoire, mais nous aussi, en tant qu'êtres vivants chauds autour d'elles, on raconte aussi l'histoire, ou une partie de l'histoire, et c'est particulièrement vrai dans cette pièce qui parle du mystère de la vie ou du mystère de la mort, ou des deux, et du fait même de la confrontation entre des êtres vivants, que nous on appelle chauds, les acteurs, et des êtres inertes, les marionnettes. Cette présence, cette simple concomitance sur le plateau aborde déjà cette question de qu'est-ce que la vie et qu'est-ce qui nous anime. Alors il se trouve que sur scène, c'est nous les acteurs qui animons les marionnettes. Voilà. Ça fait particulièrement sens dans cette pièce.
On peut parler finalement de votre rôle d'acteur dans une pièce à base de marionnettes. Quelle est la spécificité déjà de vous l'avez dit, vous ne connaissiez pas ce monde-là. Quelle est la spécificité de jouer au travers d'une marionnette?
La spécificité, c'est que il faut être aussi investi que dans un théâtre sans marionnettes, aussi investi au niveau
du texte et de la manière de le porter, tout en déléguant une partie de la vie à la marionnette. C'est-à-dire que si moi, ma vie est trop importante autour de la marionnette, la vie de la marionnette sera faible. Il faut que ma vie à moi autour d'elle, mon corps, mes gestes, mon rythme, soient adaptés à la vie que je fais, que je porte à la marionnette, que je donne à la marionnette. Et donc voilà, c'est un équilibre qui est passionnant à rechercher entre l'investissement de l'acteur et la vie de la marionnette. Même si, au final, le texte doit être porté de la même manière, avec la même intensité et la même finesse qu'un théâtre sans marionnette.
Bérangère, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que, finalement, le fait de proposer un spectacle de marionnette sur un sujet, sur la cécité, hein, est-ce que ça permet finalement au public de mieux se plonger dans l'absence de la vue? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de mieux se mettre dans la situation potentiellement ou pas?
Non, je crois pas. En fait, on peut pas vraiment dire que la pièce de Metternich est une pièce sur la cécité. Je pense qu'il faut vraiment prendre le terme aveugle dans son acception symboliste. C'est-à-dire, c'est... Que voyons-nous? Que sommes-nous capables de voir les uns des autres? Que sommes-nous capables de voir de nous-mêmes? Et que sommes-nous capables de voir de la vie d'une manière plus générale? Le fait qu'il soit aveugle, vraiment, est à prendre dans ce sens-là. Et c'est pas du tout une pièce qui parlerait du handicap. C'est assez intéressant de voir que la pièce démarre par la mort du prêtre. Donc le prêtre est celui qui est censé représenter Dieu sur terre, donc qui est censé représenter celui qui devrait nous guider dans une certaine vision des choses. Et qu'est-ce qu'on devient les uns les autres? Quel rapport on est capable de construire les uns avec les autres si ce guide n'existe plus? Elle est intéressante, cette question de la déréliction. S'il n'y a plus Dieu, alors qu'est-ce que ça change et comment on se voit et comment on s'appréhende les uns les autres. Après, le fait qu'il y ait des marionnettes permet quand même de donner à la pièce un écho assez inédit. C'est-à-dire qu'on a quand même travaillé, par exemple, les acteurs sont amplifiés, toutes les voix sont amplifiées et on a travaillé un traitement du son qui permet d'avoir la sensation que les acteurs viennent parler à l'oreille du spectateur. Comme si l'ouïe était un sens particulièrement développé chez celui qui ne voit pas. Donc on a plus essayé de travailler sur une écriture aussi des sens, dans le sens sensoriel, sensorialité, par rapport à cette question d'être aveugle. Donc, il y a une création sonore qui a été réalisée par Arnaud Pacotte, qui est fondamentale dans ce désir d'un théâtre d'expérience dont je parlais tout à l'heure. Faire vivre une expérience aux spectateurs.
Oui, puis c'est vrai, vous l'avez évoqué d'ailleurs brièvement tout à l'heure, vous avez parfois des spectateurs aveugles qui viennent voir votre pièce. Pour le coup, il faut un travail aussi sonore abouti pour retransmettre finalement la pièce à ce genre de public. Et ça fait aussi partie de ce qu'est les aveugles en tant que pièce de théâtre. Pardon, j'ai un peu la gorge qui me... petit chat dans la gorge.
Oui, ça nous est même arrivé d'accueillir parfois des groupes de gens aveugles qui viennent d'abord et à qui on présente les marionnettes, c'est-à-dire on leur permet, ce qu'on ne fait jamais habituellement parce que sinon elles seraient vraiment trop endommagées, mais de toucher les personnages pour mieux comprendre à quel point elles sont réalistes, quelle est leur taille, et puis de mieux comprendre quel est le rapport justement entre l'acteur et la marionnette au sein de la pièce. Mais ça pourrait presque à certains égards être une pièce radiophonique.
Oui, et puis c'est Metternich le présente comme un poème théâtral plus qu'une pièce de théâtre. C'est à la fois une pièce chorale, puisque la parole circule, on se répond les uns les autres, et en même temps c'est la globalité qui fait sens, réellement comme un poème. C'est-à-dire que si on essaie de s'attacher à chaque réplique, à chaque situation, c'est assez banal et assez obscur, alors que si on se laisse porter par le souffle de la parole qui circule comme ça, qui avance comme un poème, alors peut-être qu'on arrive à faire ressentir quelque chose qui en dit plus que les situations mises les unes à côté des autres. et c'est vraiment ce qu'on recherche. Et plus on joue ce spectacle, je trouve, plus on recense ce poème.
Les marionnettes, est-ce qu'on peut en parler déjà? Comment elles ont été conçues? Quelle matière? Est-ce que aussi, techniquement, le fait qu'elles aient apparence humaine, ça ne change pas aussi la perception, notamment des acteurs, vous, en tant que comédien, d'avoir à jouer avec quelqu'un finalement qui vous ressemble, même si ça reste une marionnette? Est-ce que ce n'est pas un peu troublant de jouer comme ça en présence d'une marionnette?
Troublant, non. On a une certaine affection pour elles. Elles sont à l'échelle de tiers à peu près, donc elles sont un peu petites. Moi, j'ai toujours travaillé avec ce genre, comme je vous l'ai dit, je suis pas marionnettiste, donc j'ai toujours travaillé avec ce genre de marionnette très réaliste. Et je sais pas ce que c'est de travailler avec une marionnette qui serait pas très réaliste. C'est peut-être différent. Mais là, je développe une sorte d'affection. On a plaisir à les retrouver. On leur donne des petits noms. On leur parle parfois. On leur raconte des trucs. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là.
C'est notre côté animiste.
Elles sont en quoi, ces marionnettes? C'est peut-être une question un peu simple. Mais
non, c'est une question importante. En fait, elles sont en plein de matière. Déjà, pour commencer à vous raconter un peu comment elles ont été faites, déjà, elles ont été faites en 6 mois. Donc, il y a eu 6 mois de travail pendant lesquels il y a un atelier d'une dizaine de personnes qui a travaillé. Donc, elles sont faites en plusieurs étapes. Il y a une étape très importante qui est celle de la sculpture des têtes. Donc, plus que de la sculpture, c'était du modelage. Donc au départ, c'était des têtes en terre. Et c'est Marguerite Borda, qui est une de mes très proches collaboratrices, qui a donc commencé par sculpter 13 petites têtes en terre. Ça lui a pris, je pense, pas loin de 3 mois, dans la solitude de son atelier. Et puis, parallèlement au modelage de ces têtes en terre, moi, j'ai travaillé sur la construction des corps. Les corps, ils sont faits d'un squelette en aluminium, sur lequel on vient coller des mousses. Et ces mousses sont sculptées à l'image d'un corps humain. Et elles seront recouvertes d'un lycra qui permet aux vêtements, quand on habille ensuite les marionnettes, les vêtements ne s'accrochent pas à la mousse, mais ça permet de garder une sorte de glissé qui ressemble à la peau. Et puis, donc ça, c'est les corps. Et puis, quand les têtes en terre sont terminées, elles sont moulées. Donc, on fait un moulage en silicone de ces têtes en terre. Donc là, il y a eu 13 moules qui ont été faits. Et dans ces moules en silicone, on fait un tirage en résine. Donc, la résine, c'est ce qui permet de faire les bateaux, de faire la plupart des choses qui nous environnent. Donc, ça a l'avantage d'être léger et très solide. Donc, la résine qu'on a utilisée, c'était une résine qui était jaune pâle. Et donc, une fois que les têtes ont été tirées en résine, on les a montées sur les corps. Et puis ensuite arrive le travail de peinture, qui est aussi très long, parce que la carnation, c'est quelque chose de très important pour donner l'impression que c'est réel. Et puis une autre chose très importante, c'est le travail des cheveux. On a travaillé avec une jeune femme qui s'appelle Nathalie Régior, qui travaille avec nous depuis Les Aveugles d'ailleurs, qui a donc réalisé 13 petites perruques, parce que comme les marionnettes ne sont pas à la taille humaine, on ne pouvait pas du tout acheter des perruques dans le commerce. Donc elle a vraiment façonné sur chaque petite tête une perruque avec des vrais cheveux qui sont tissés quasiment cheveux par cheveux. C'est un travail assez colossal. Et puis la dernière main, on va dire, est mise par les costumes, le travail des costumes, donc qui ont aussi été taillés pour chaque personnage. Et tout ça représente un peu plus de 6 mois de travail.
Et oui, c'est un travail minutieux. 13 marionnettes en tout, c'est ça?
6 hommes, 6 femmes.
13 fois le travail. 6 hommes, 6 femmes.
Et le prêtre mort.
J'ai quelques petites questions à vous poser dessus. C'est le petit quiz habituel de sortie. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on n'a pas de musique, on n'a pas de jingle. Est-ce que Julie, tu peux nous improviser un petit jingle pour introduire le quiz?
Pretty Young Girl. Ah, ça, c'est connu sur Radio Campus. Donc, ça passe.
Merci, Julie. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Donc, un quiz spécial marionnette.
Oui, c'est parti.
En quelle année a été créée la célèbre marionnette française Guignol?
Oh, pétard.
On en parlait tout à l'heure.
Je ne sais pas. Aucune idée.
Ça remonte à plus de 2 siècles.
D'accord.
Ouais, 2 siècles, et en fait, c'était en 1808.
1808.
Ouais.
Bon, merci.
Voilà, c'était. Oui, par Laurent Mourguet. Mm. Voilà, donc créateur de cette célèbre marionnette française. Deuxième question. Alors Pinocchio a été créé par Carlo Collodi, ma prononciation est peut-être un peu fausse, en 1881. Alors évidemment, quand Pinocchio ment, pardon, son nez s'allonge. Est-ce que... alors pardon, je vais vous dire un vrai ou faux, je me mélange complètement dans ma question. Il y a une étude qui a été faite depuis et qui dirait que le nez grossit effectivement quand on ment. Est-ce que c'est vrai ou faux ?
Moi je dirais que c'est faux.
Moi je dirais que c'est vrai.
Et alors, étonnamment c'est vrai. En fait c'est une université, l'université de Grenade en Espagne, qui a découvert ça en 2012 avec les IRM, etc. Quand on ment, le nez en fait gonfle un peu. Il y a une chaleur qui se crée dans les canaux nasaux. Ouais. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est mais génial. Voilà, en tout cas, c'est l'effet Pinocchio. Hein, tout
Est-ce que Pinocchio était une marionnette ou un pantin ?
Alors, c'est un autre débat, effectivement, mais il peut être classé dans les deux, je ne sais pas. Quel
Inverse
est le point
pas
de
le,
vue,
le quiz. Oui, c'est bien coup, nous qui devons répondre.
Du coup, j'ai été piégé. Troisième question. Alors, il y a les Guignols, célèbre émission sur Canal+. Quand a été diffusée pour la première fois les Guignols?
Moi, je dirais peut-être en 84-85.
On n'est pas loin.
C'est
un tout petit peu après, ouais, effectivement. C'est le 29 août 1988, donc là encore, 30 ans presque. Mm. Enfin, 29 ans cette année, 30 l'année prochaine, c'est quand même quelque chose.
Et d'ailleurs, le personnage de Guignol que vous évoquiez tout à l'heure, on le prend souvent pour un personnage un petit peu... comment dire, aujourd'hui c'est difficile de voir les vrais Guignols, mais à l'époque c'était un personnage extrêmement subversif, parce que n'étant pas humain, il avait la possibilité de dire des choses qu'un humain ne pouvait pas dire, donc il a été même sous le coup d'un arrêt de mort, je crois, à une période, et du coup les Guignols de l'info ont vraiment bien choisi leur nom en respectant cette tradition d'impertinence en fait du personnage de Guignol. Aujourd'hui, on voit plutôt Guignol et les Pokémon, mais rien à voir, en fait. Les vraies pièces de Guignol. Les vraies pièces de Guignol étaient des pièces souvent subversives.
C'est vrai qu'on pouvait plus facilement dénoncer au travers d'un personnage.
Exactement.
Indirectement, finalement.
Exactement, sur la place publique. Ouais.
Quatrième question. Où a lieu le Festival mondial des théâtres de marionnettes?
Ça, c'est fastoche.
Ah, c'est fastoche.
Charleville-Mézières.
Charleville-Mézières, effectivement.
Il sait répondre.
C'est-à-dire qu'on en vient. Donc,
alors, ce festival... Ah, vous en venez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est ce festival qui a été créé en 1961, c'est
ouais,
ça
ouais.
Par un certain Jacques Félix.
Oui, c'était au départ même un festival qui était surtout un festival de passionnés, mais beaucoup d'amateurs et beaucoup de bénévoles. Et puis, il s'est étoffé d'année en année jusqu'à devenir ce festival assez énorme qui dure un petit peu plus d'une semaine, enfin il court du début d'un week-end jusqu'à la fin du week-end suivant. Et donc nous on y a participé assez régulièrement. On a même été, la compagnie était artiste associée du festival sur l'édition de 2013, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est un festival assez passionnant, on peut voir plein de choses, on peut voir notamment que la marionnette est loin de se cantonner au spectacle pour les enfants.
Dernière question, un peu dans la même veine. Quand a été créée l'Union internationale de la marionnette ?
L'UNIMA, aucune idée.
Et ça, pareil, c'est assez vieux. Et le siège social, avant de vous donner la réponse, le siège social s'est déplacé en 1980 à Charleville-Mézières.
D'accord.
Donc c'est vraiment la ville
de la marionnette.
Ouais, de la marionnette, ville référence. Ça date de 1929. Donc en 1929 a été créée cette Union internationale de la marionnette à Prague. Donc c'est vraiment, on n'est pas loin, bon, 90 ans grosso modo. Est-ce que c'est preuve aussi que la marionnette c'est finalement historique et ça s'inscrit finalement dans le théâtre moderne?
Moi, ce qui m'a toujours frappé avec la marionnette, c'est que depuis que je m'y intéresse, je découvre que toutes les cultures dans le monde entier ont une histoire avec la marionnette. Donc la marionnette devait remplir une fonction capitale, et elle doit remplir une fonction capitale parce que ça existait partout, sous différentes formes, et que ce soit à Prague, en Indonésie, en Amérique latine, en Inde, toujours partout des cultures très fortes. Et voilà, donc je crois que ça a une fonction capitale pour les sociétés.
Il y a eu des renouveaux à différentes périodes, par exemple dans les pays de l'Est, dans la fin des années 70, ils étaient Très très fort. Ils ont rebattu énormément les cartes. Ils sont allés sur des registres extrêmement contemporains. Et aujourd'hui, je dois dire qu'en France, il y a vraiment des choses assez intéressantes. Moi, j'ai fait également un voyage au Japon il y a 2 ans. Je suis partie pendant 2 mois au Japon pour rencontrer les maîtres du Bunraku, qui est la tradition de marionnettes japonaises. Et là, pour le coup, on est encore sur un art très très traditionnel. Et il y a encore assez peu de jeunes gens qui se sont réemparés des codes de cette tradition de marionnettes pour se les réapproprier. Mais je pense que ça va venir. Donc ça tourne, en fait. Hein, les différentes régions cassent les codes les unes après les autres. Et tout ça, ça nourrit. Et est-ce que je peux me permettre de m'arrêter 30 secondes sur Charleville-Mézières ?
Allez-y.
Juste pour dire qu'il y a à Charleville-Mézières la seule école nationale française qui permet de former des acteurs marionnettistes. Mmh. Elle s'appelle l'ESNAM, École supérieure nationale des arts de la marionnette, et elle est à Charleville-Mézières. Elle vient d'être dotée, là, l'inauguration a eu lieu au précédent festival de Charleville-Mézières, donc en septembre, d'une nouvelle école. Et il y a donc des promotions de 12 acteurs, actrices, marionnettistes qui s'y succèdent. Il y a 2 promotions tous les 3 ans, en fait. Il y a juste une année creuse.
La seule de France
C'est la seule en France.
Vous faites bien de le préciser. Vous avez évoqué les marionnettes du Japon, notamment. Oui. Et vous aussi, Guillaume, de toutes sortes de pays. Parce que finalement, les marionnettes, ce n'est pas quelque chose de français, hein, loin de là, évidemment. Quelle est la différence, par exemple, entre une marionnette japonaise et une marionnette française ? Est-ce qu'il y a des types de marionnettes en fonction des pays ?
Au Japon, très clairement, il y a la marionnette de Bunraku, qui est une marionnette assez grande, qui mesure environ 80 cm, qui est manipulée par 3 manipulateurs, qui sont toujours des hommes. Et la particularité, c'est que les personnes qui animent la marionnette ne sont pas les personnes qui disent le texte. Il y a sur la scène un récitant, qu'on appelle en japonais le taiyu, qui dit le texte de tous les personnages. Mais au Japon, la tradition de marionnette, elle est encore très forte. En France, elle l'est beaucoup moins, mais on pourrait dire que la tradition de marionnette française, c'est plutôt Guignol, donc c'est ce qu'on appelle la marionnette à gaine, donc des petits personnages, le marionnettiste est caché derrière un castelet. Donc il n'y a pas vraiment de point commun, je peux dire, entre les différentes traditions d'un pays à l'autre. C'est très très divers. Il y a les marionnettes sur l'eau au Vietnam, il y a le théâtre d'ombre par exemple en Turquie. Enfin, c'est vraiment chaque pays a sa particularité.
Et c'est vrai qu'il y a plusieurs types aussi de marionnettes, à gaine, à fil, etc. Bon, on n'aurait pas le temps de tout détailler malheureusement, mais ça participe aussi finalement à la diversité des oui. marionnettes dans le monde. Je vous vois avec un livre, ah, Bérangère. Oui. Je crois que vous vouliez nous lire un passage, mais quel est ce passage secret ?
Alors, c'est un extrait d'un texte de Maeterlinck. Donc, on revient un petit peu plus sur les aveugles. Donc, c'est un texte qui a été écrit par Maurice Maeterlinck dans un recueil qui s'appelle « Le trésor des humbles ». Et ce texte a pour titre « Le tragique quotidien ». Alors, ça m'intéressait de vous lire. Je vous le lis, puis après, je vous dis pourquoi.
Allez-y.
Alors, il dit ceci, Maeterlinck, il dit « Il m'est arrivé de croire qu'un vieillard assis dans son fauteuil, attendant simplement sous la lampe, écoutant, sans le savoir, toutes les lois éternelles qui règnent autour de sa maison, interprétant, sans le comprendre, ce qu'il y a dans le silence des portes et des fenêtres et dans la petite voix de la lumière, subissant la présence de son âme et de sa destinée, inclinant un peu la tête, sans se douter que toutes les puissances de ce monde interviennent et veille dans la chambre comme des servantes attentives. Il m'est arrivé de croire que ce vieillard immobile vivait, en réalité, d'une vie profonde, plus humaine et plus générale que l'amant qui étrangle sa maîtresse, le capitaine qui remporte une victoire ou l'époux qui venge son honneur. Voilà. C'était pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure sur le registre de jeu de la pièce, c'est le fait qu'il n'y avait pas de rebondissement et une trame narrative particulière. Et l'autre terme qui nous a beaucoup accompagnés pendant la création des aveugles, c'est ce terme des servantes attentives. L'idée qu'il y aurait autour de nous des personnages ou des forces invisibles qui seraient comme des servante attentive, je peux pas le dire mieux. Et ça a été pour nous une des entrées pour comprendre quelle était la place des marionnettistes autour des marionnettes. On pourrait dire que les marionnettistes dans la pièce Les Aveugles sont les servantes attentives de ces 13 marionnettes qui sont perdues dans la forêt.